Si on partait, nous sommes en Guadeloupe jusqu'à 17h avant de partir pour la Suisse tout à l'heure. Et nous parlons en Guadeloupe maintenant d'un petit peu de l'histoire de cette terre et des termes, des mots qui reviennent souvent là-bas, qui sont utilisés. Il y a un mot quand on se balade sur les îles de Guadeloupe qu'on entend tout le temps, c'est le mot béquet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Nathalie ?
Oui, alors je vous le dis tout de suite, c'est un sujet un petit peu touchy, comme on dit, un petit peu délicat. Ils ne sont pas toujours très bien vus. Les béquets, en fait, ce sont les descendants des premiers colons, les nobles, hein, qui se sont installés aux Antilles au XVIIe siècle, à la fois pour redorer leur blason ou carrément sur ordre du roi. Donc d'abord, on les a appelés créoles. Mais en fait, ce terme, aujourd'hui, ça désigne surtout la population noire des Antilles. Les béquets, il faut savoir qu'aujourd'hui, ils représentent environ 1 à 2% de la population des Antilles. Il y en a environ 2000 en Guadeloupe et ils descendent de ceux qui ont échappé à la guillotine de la Révolution française sans avoir eu besoin de se réfugier hors du territoire français. C'est-à-dire que certains ont couru se réfugier soit sur Saint-Barthélemy, soit sur Saint-Martin, à Martinique, en Suède. Mais en Guadeloupe et dans toutes les Antilles, on parle d'un béquet à la fois pour une personne, mais on peut aussi évoquer la population béquet ou la culture béquet.
Et l'origine exacte du mot, c'est quoi ?
Il y a plusieurs pistes, hein. Certaines sont assez fantaisistes. Alors on dit que fréquemment que c'était les blancs des quais, c'est-à-dire ceux qui contrôlaient le départ des marchandises en provenance de leurs plantations. On dit aussi, c'est souvent ceux qui disaient « eh ben quoi ?» et « béquet ?»
Ah,
eh ben
oui,
quoi
okay.
Ou encore ce serait, paraît-il, une abréviation de blanc créole, béquet.
Ah, oui.
Et puis, selon d'autres sources encore, c'est un mot issu du langage Igbo, du sud-est du Nigeria, anciennement le Biafra, qui signifie tout simplement blanc. Alors, il y a deux expressions typiques qu'on entend également en Guadeloupe, les blancs pays. Qu'est-ce que c'est ? Les blancs pays, bah, c'est lié au contexte de la Révolution française et surtout à la première abolition de l'esclavage en 1794. Je vous explique pourquoi. Il y avait les troupes britanniques qui occupaient la Guadeloupe depuis avril 1793 et la crainte des révolutionnaires français, eh bien, c'est que les colons ne livrent l'île aux Anglais pour rétablir tous les privilèges. Donc, la quasi-totalité des grands propriétaires terriens, qui sont en fait les grands planteurs de l'île, va être guillotinée sauvagement par les troupes révolutionnaires du français Victor Hugues, un marin célèbre, qui organise à la fois un soulèvement populaire contre les Britanniques et en même temps cette grande exécution de masse. Et puis surtout, il va faire dégager les Britanniques en décembre de la même année. Et puis les rares survivants planteurs s'enfuient dans les îles alentours. Et ce sont les descendants des colons de Guadeloupe n'ayant pas été exécutés qu'on va appeler les blancs pays, c'est-à-dire les petits planteurs, les marins, les commerçants, les militaires. Et puis par la suite, progressivement, quelques béquets de la Martinique vont s'installer en Guadeloupe tout en conservant étroitement leur lien avec les familles d'origine.
Oui, c'est compliqué. Hein, il faut...
Oui, c'est toute une histoire très particulière avec beaucoup de polémiques autour. Alors moi, j'essaye d'être très factuelle dans tout ce que je vous raconte.
Alors, l'autre expression que vous avez retenue, qu'est-ce que c'est ?
Bah, c'est les blancs matignons. Alors, historiquement, ce sont des travailleurs engagés sur les terres en échange du prix de la traversée depuis la France. Donc, en fait, il s'agit de colons pauvres, sans nom, sans prestige évidemment, plutôt que des propriétaires terriens qui veulent échapper à la guillotine. Ça n'a rien à voir. Eux, ils n'avaient comme richesse que la couleur de leur peau, d'où les nombreux mariages consanguins pour préserver, et je mets plein de guillemets là-dessus, la blancheur de la descendance. On raconte que ces blancs matignons se sont réfugiés à la Révolution dans les hauteurs des Grands Fonds, autour de lieux-dits Matignon. Donc ils ont formé une sorte de caste, ils ont vécu en autarcie, ils se sont reproduits entre eux, mais ils n'avaient aucun pouvoir économique ou foncier. Et donc, après l'abolition de l'esclavage, ils se sont mis à travailler eux-mêmes leurs plantations, puisque je vous rappelle qu'ils n'avaient aucun moyen. Il serait environ 400 aujourd'hui blancs matignons descendants de ces pauvres colons malchanceux. Ceci étant dit, pardon, entre plusieurs guillemets, évidemment.
Un petit peu de musique et de légèreté, peut-être ?
Oui, oui, absolument. Un petit peu de croustillant. Oui, alors j'avais envie de vous emmener danser la biguine avec moi. Vous savez, la biguine, c'est la... Ça fait partie intégrante de la culture de l'archipel. C'est une musique qui a su traverser les années, depuis la période de l'esclavage jusqu'à nos jours. Et alors, son nom, il y a aussi une origine assez curieuse. Il vient de l'anglais. Il vient de l'anglais begin, qui signifie commencer, parce que c'est le terme prononcé par les chefs d'orchestre anglais en début de présentation. Cela dit, en beginner en français, ça voudrait dire coiffé d'un béguin, c'est-à-dire un bonnet. Donc un peu les deux origines. En tout cas, dans cette musique, on retrouve beaucoup de similitudes avec les orchestres de jazz de la Nouvelle-Orléans. Et à l'origine, eh bien la begin, elle est jouée par des musiciens noirs. Ça regroupe une flûte, un violon, une clarinette, une guitare, un banjo, un saxophone, une trompette et une batterie. Et parfois, comme dans le jazz de la New Orleans, il y a des impros. C'est une musique très riche parce qu'elle regroupe différents styles, très nombreux styles.
Ouais. Mais alors, begin, c'est une musique ou une danse ?
Ben, c'est les deux, en fait. En tant que musique, elle apparaît au 19e siècle et elle dérive notamment du rythme du guoka. Alors, qu'est-ce que c'est le guoka ? C'est un son qui est joué depuis toujours par les Guadeloupéens sur un tambour de fortune qu'on appelle le ka, qui est fabriqué à partir d'un tonneau de salaison. C'est improbable, mais ça leur sert d'instrument de musique. Et on retrouve d'ailleurs des similitudes entre la begin et puis d'autres genres de musique africaine importés par les esclaves. Et cette begin, elle se danse aussi à deux. Surtout d'une manière très tonique et lascive à la fois pour collé les femmes.
Collé serré, on va dire.
Ouais, très collé serré pour les femmes avec leurs partenaires. Et il faut savoir qu'en métropole, eh bien, après la Première Guerre mondiale, les Antillais jouaient la begin dans les meilleurs clubs de Paris. Il y a eu un grand engouement dans les années 30, surtout après l'exposition coloniale internationale de 1931 et puis ensuite dans l'après-guerre. When they begin, the begin. Alors vous reconnaissez la voix chaude d'Ella Fitzgerald. En fait, c'est un morceau qui s'appelle Begin the Begin, qui a été composé par Cole Porter en 1935. Et c'est pas un rythme de begin, mais c'est un rythme de jazz. Alors je ne résiste pas à l'envie de vous traduire les premières paroles. Quand ils entonnent la begin, elle fait surgir la sensation d'une musique si tendre. Elle fait renaître des impressions de splendeur tropicale.